Vous êtes bien à l'écoute de RFI, il est tout juste 16h à Paris, 17h à Beyrouth.
Olivier Sherman.
Entrée en vigueur ce samedi des nouveaux droits de douane à hauteur de 10% supplémentaires sur toutes les importations aux États-Unis imposées par Donald Trump, une déflagration pour le commerce mondial. Un exemple concret dans ce journal avec Nathanaël Vitran et les conséquences pour l'entreprise Nintendo qui vend des millions de consoles de jeux aux États-Unis. Des manifestations contre la politique de l'administration Trump et contre Elon Musk prévues ce samedi. Dans les grandes villes américaines, la manifestation nationale va se dérouler à Washington, où plus de 10 000 personnes sont attendues. Dans ce journal, vous entendrez une manifestante en colère. Lutte contre le blanchiment et lutte contre le financement du terrorisme, les deux priorités du tout nouveau gouverneur de la Banque du Liban, nous expliquera depuis Beyrouth Paul Khalife. Le monde de la musique en deuil avec le décès d'Amadou, du duo Amadou et Mariam. Nous sommes allés rencontrer la communauté malienne de Montreuil, en banlieue parisienne. Les produits du monde entier visés donc par une taxe de 10% à l'entrée des États-Unis, c'est entré en vigueur depuis quelques heures, une véritable déflagration pour le commerce mondial qui doit s'amplifier dans les jours qui suivent puisqu'il va y avoir d'autres taxes appliquées par l'administration Trump. L'addition sera donc nettement plus lourde dès ce mercredi pour les pays qui exportent plus vers les États-Unis qu'ils n'importent de produits américains. Une situation qui force les pays et les entreprises à s'adapter. Illustration avec la Switch 2, la console de jeux de Nintendo qui doit sortir début juin, elle est très attendue. En 8 ans, le constructeur japonais a vendu 150 millions d'exemplaires de la Switch première du nom, dont près de 40% rien qu'aux États-Unis. Nintendo a été pris de court par la hausse brutale des droits de douane américains, à tel point qu'il a décidé en catastrophe d'interrompre les précommandes aux États-Unis. Les explications de Nathanaël Vitran.
Nintendo Switch 2, non.
Le plan marketing de Nintendo était pourtant bien rodé. Mercredi dernier, le constructeur japonais annonçait enfin la suite de sa console de jeux familiale, la deuxième la plus vendue de l'histoire. Une sortie mondiale le 5 juin et un prix conseillé aux États-Unis juste en dessous de $450. C'est déjà $150 de plus que le prix de vente de la Switch 1 à sa sortie en 2017. Au risque de faire grincer des dents, le constructeur japonais s'était laissé un peu de marge. Visiblement pas assez. À peine deux jours plus tard, Nintendo annonce que les précommandes aux États-Unis n'ouvriront finalement pas le 9 avril comme prévu. Le temps d'évaluer l'impact des droits de douane et l'évolution du marché. Si les tarifs douaniers restent au niveau annoncé, les experts estiment que Nintendo n'aura pas d'autre choix que d'augmenter significativement le prix de la Switch 2 aux États-Unis. Vendredi, le Premier ministre japonais avait qualifié la situation de crise nationale alors que les produits de l'archipel se voient frappés d'une surtaxe de 24% par Donald Trump et que les États-Unis absorbent à eux seuls 20% des exportations japonaises.
Nathanaël Vitran du service économie de RFI. Des manifestations contre la politique de l'administration Trump et contre Elon Musk prévues ce samedi dans les grandes villes américaines. La manifestation nationale se déroulera à Washington. 10 000 personnes sont attendues. Jacqueline Devine, une américaine d'origine canadienne, viendra de Baltimore. Elle fait partie des gens qui ont perdu leur emploi avec le démantèlement de l'Agence américaine pour le développement international. Elle manifestera pour tenter de faire prendre conscience de la situation à ceux qui ne se sentent pas concernés. Jacqueline Devine.
On espère qu'il y aura une grande foule, c'est dans toutes les villes. Alors, c'est ceux qui ne voient pas ce qui se passe. Tant qu'eux ne vont pas comprendre l'impact de cette administration sur leur vie, sur la vie de leurs enfants, sur leur santé, sur l'environnement, tant qu'ils ne font pas le lien, je pense que l'administration va tenir. C'est ça ma peur. Je crois qu'il y a une recommandation, c'est « do not obey in advance ». N'obéissez pas à l'avance. Et je crois que c'est ça qu'il ne faut pas faire, obéir à l'avance, parce que ça veut dire que vous n'allez rien faire, quoi. Je fais faire ce que je peux pour résister de façon légale. Oui. Le temps de s'exprimer, c'est maintenant. Hein. Oui.
Jacqueline Devine, une manifestante contre la politique de l'administration Trump, interrogée par Guillaume Nodin. Il y a des rassemblements partout dans le monde, et en ce moment même à Paris. La ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky, frappée par un missile russe. Le bilan est lourd, au moins 19 morts, dont 9 enfants et 70 blessés. Ce bombardement, l'un des plus meurtriers de ces dernières semaines en Ukraine, a touché un quartier d'habitation dans le centre du pays. La crise climatique est en passe de détruire le capitalisme, car les impacts des événements climatiques extrêmes vont rendre le système financier incapable d'opérer. Voilà l'avertissement lancé par l'un des hauts dirigeants du monde de l'assurance. C'est un peu le serpent de mer qui se mord la queue, parce que ce sont nos activités économiques fondées sur le système capitaliste qui ont mené à cette crise climatique. Dans un texte publié sur les réseaux sociaux, Günther Tellinger, membre du conseil d'Allianz, l'une des plus grandes entreprises mondiales d'assurance, appelle à des actions urgentes pour accélérer la transition écologique, car les solutions sont connues. Explication Lucille Gimbert.
En plus des victimes humaines, les événements climatiques extrêmes comme les inondations ou les incendies font des dégâts matériels et économiques de plus en plus considérables en raison du réchauffement mondial. Les assureurs ont historiquement pris en charge ces risques, rappelle ce haut dirigeant d'Allianz, mais nous nous approchons de hausse des températures mondiales où les assureurs ne pourront faire face. Les primes d'assurance vont excéder ce que les individus et les entreprises peuvent payer. C'est déjà le cas dans des régions entières, comme en Californie. Sans assurance, une maison ne sera plus hypothécable. La banque ne donnera pas de crédit pour l'acheter. C'est vrai aussi pour les projets d'infrastructure, l'agriculture ou les industries. Bref, Günther Tellinger parle d'un risque systémique qui menace les fondations même du secteur financier. Et les États n'auront pas les budgets pour gérer. La valeur économique de régions entières sur les côtes ou dans les zones arides va plonger, le système financier vaciller et avec lui le capitalisme tel qu'on le connaît cessera d'être viable, écrit le dirigeant. La bonne nouvelle, les technologies pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre responsables de cette crise climatique sont matures. Le solaire, l'éolien, les batteries, l'hydrogène vert, l'électrification, liste-t-il. Il faut désormais passer à la vitesse et à l'échelle supérieure.
Le nouveau gouverneur de la Banque du Liban a dévoilé ses intentions en matière financière après sa prestation de serment devant le président Joseph Aoun. Il a fait de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ses priorités. À Beyrouth, les explications de Paul Ralifé.
Le principal souci de Karim Souaïd est de retirer le Liban de la liste grise du groupe d'action financière GAFI, l'institution chargée de fixer les standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Pour atteindre cet objectif, le nouveau gouverneur de la Banque centrale s'est engagé à démanteler l'économie illégale. Même s'il ne l'a pas dit explicitement, c'est le Hezbollah qui est principalement dans sa ligne de mire. Le parti chiite dispose de son propre réseau bancaire appelé Al-Qard al-Hassan, que les États-Unis et Israël souhaitent voir disparaître. Autre priorité de Karim Souaïd, la restitution intégrale et progressive des dépôts, en commençant par les petits épargnants et en mettant à contribution les banques, la Banque du Liban et l'État. Il n'a pas cependant précisé qui supportera la plus grande part des pertes provoquées par l'effondrement économique et social, estimé à 76 milliards de dollars. Dans le passé, Karim Souaïd avait fait assumer à l'État la plus grande part de responsabilité dans la crise et a proposé de financer les pertes en privatisant le secteur public. Il serait aussi partisan de la vente des réserves d'or du Liban, dont la valeur est estimée aujourd'hui à 25 milliards de dollars. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Vous êtes toujours à l'écoute de RFI, il est tout juste 14h08 à Bamako. Le monde de la musique perd un grand artiste avec le décès d'Amadou, du légendaire duo de musiciens aveugles Amadou et Mariam. Il avait connu un succès planétaire en 2004 avec Un dimanche à Bamako. Amadou est mort à l'âge de 70 ans des suites d'une maladie. Écoutez le témoignage de Kamala Maroula qui habite Montreuil en banlieue parisienne où vit une importante communauté d'origine malienne.
Moi d'hier, vraiment ça m'a beaucoup touché. C'est mon grand frère qui jouait sa musique quand j'étais tout petite. Écoutez, en famille, tout le monde, même mon mari. J'ai beaucoup aimé sa musique, surtout le jour. Masha Bamako, vraiment, j'adore. Parce que le musique, c'était l'année de mon mariage.
Vous l'avez joué à votre mariage?
Oui, ça m'a donné le foie encore pour tenir mon mariage. Parce que quand je vois Amadou avec sa femme, les deux, ils aimaient beaucoup. J'ai pris référence pour bien tenir mon mariage. Parce que quand tu écoutes sa musique, ça te donne à réfléchir, ça te donne le foie de te battre. Parce que malgré tout son état, il n'a pas baissé le bras.
La vie est belle.
Oh, ma chérie.
glace dans la mer.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de RFI. Passez une excellente après-midi à notre écoute.